Salut là, salut les sports, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch à grosses gouttes d'huiles essentielles. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. Je pense que vous savez qui je suis votre dinosaure. Que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris. Et je vais vous introduire mon tag team partner du jour, qui n'est autre que le même tag team partner de la semaine dernière, mon bon et mon vieux Papy. Salut Papy, comment vas-tu?
Bonjour, comment ça va? Hello. Ah bah ça va, salut tonton, là je suinte.
Ah tu suintes à mort, tu dégoulines.
Ah là, ça, j'en fous partout, là. C'est la grosse goutte, là. J'ai le clavier qui est rempli de sueur catchesque.
Oula!
Je suis prêt à débriefer ce Raw avec toi, c'est un Raw qui m'a rendu un peu perplexe. Ça.
Oh, je pense que nous sommes peut-être deux à être dans la perplexitude. Enfin, en tout cas, ouais, tout à fait. En tout cas, peuple de catch-up, bienvenue dans le groupe de la revue du show rouge. Faut que ça bouge, donc on va pas perdre de temps. On va aujourd'hui vous parler du Raw du 1er juin 2020, qui se passait donc au Madison Square Garden devant 45 000 spectateurs.
C'était ouf.
Non, on déconne. On est toujours au Performance Center. On est toujours avec les plexiglas partout qui gênent la vue de notre bon vieux papy, qui a quand même un à l'œil gauche et 2,5 à l'œil droit. Donc,
moins deux.
Moins deux carrément. Ah ouais, t'as baissé en plus depuis la semaine dernière.
Ouais, non, c'est de pire en pire.
Oh merde, mais vraiment la vieillesse est un naufrage. Et voilà, donc on a quand même voilà, tout le roster des jeunes rookies de NXT qui sont là pour faire le catch-up. Et donc on va pas perdre de temps, hein, peuple de catch-up, puisqu'on va attaquer direct avec qui? Avec le Messie. Quoi de tel que de commencer avec Jésus, hein, un épisode de Raw. Donc Seth Rollins débarque sur le ring avec ses disciples, Murphy et Austin Theory. Et il débarque pour la cérémonie de retraite de Rey Mysterio, donc on comprend que Rollins va être l'host de cette fameuse cérémonie de retraite qui nous a été teasée la semaine dernière. Et en fait, pour le coup, il commence en nous expliquant qu'il va affronter Aleister Black ce soir, et que peu après ou pendant la soirée, le vétéran mexicain sera présent pour venir s'adresser à l'ensemble du WWE Universe. Mais bon, Rollins, quand même, il est peut-être pas si fou que ça, puisqu'il nous explique qu'il pense que Rey Mysterio va peut-être pas annoncer sa retraite, alors que du coup, il va se charger de le faire pour lui. Il remercie quand même au passage, il est poli cet homme, il remercie au passage le Ray d'être le prochain sacrifié pour le bien du show rouge, et que du coup, ça fait de notre Rey Mysterio quelqu'un de généreux. Mais ça, bon, je pense que vous le saviez déjà. Derrière, la WWE nous balance une vidéo hommage sur le Rey Mysterio, comme ils savent faire. Voilà, alors ça là-dessus, hein, c'est des pros, hein, donc voilà, les vidéos montage à la WWE, ça déconne pas. Et donc on a une magnifique vidéo sur toute la carrière de Rey Mysterio à la WCW, ses exploits à Raw, à SmackDown, son titre de champion du monde, sa victoire en Royal Rumble historique. Et mais le vidéo package se termine quand même avec Rollins qui, sur les derniers segments à Raw, quand il a fait beaucoup de mal au Ray, et en particulier qu'il a tenté de lui crever un œil, quoi. Et il signale aussi qu'il a décidé d'introniser lui-même le vétéran au WWE Hall of Fame. Donc pas mal, mais finalement le segment va se terminer pas tout à fait comme le voulait Rollins, j'imagine, puisque Aleister Black va pas attendre d'être appelé pour le combat et va débarquer directement sur le ring et va s'attaquer au Messie. Alors, c'était assez dense, ce départ d'Euro, cet opener. Ton avis, papy, là-dessus? Est-ce que tes lunettes déjà étaient opérationnelles?
Oui, mes lunettes étaient parfaitement bien réglées. Je t'avouerai que, pour aller vite fait sur ce sujet-là, au niveau plexi, alors je ne sais pas si c'est l'habitude ou si ils ont changé quelque chose, mais j'ai été bien moins gêné que la semaine dernière. Là, pour le coup, je n'ai pas senti la même gêne par rapport au mouvement de caméra, etc. À voir si ça continue comme ça. Pour revenir sur l'intro de Rollins, ouais, c'était dense, un poil décousu, je t'avouerai que, et ça s'est un peu poursuivi pendant toute l'histoire par rapport à la retraite de Mysterio, j'ai eu un peu de mal à suivre où est-ce qu'il voulait en aller. Ok, bon, finalement, il capitalise juste un peu sur ses actions, il fait la fausse vidéo promo qui finit avec lui en tête d'affiche. Bon, c'est du classique finalement, il n'y a pas grand chose à rajouter au final. Je sais pas si toi, ça t'a... Est-ce que ça t'a, ça t'a fait chaud, enfin, quelque chose à ton petit cœur de voir la vidéo récap de Rey Mysterio?
Alors oui, ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. Ouais, voilà, ouais, voilà. Hormis le fait que effectivement, le fait de revoir un peu les exploits du Ray, ça peut toujours que de me faire plaisir. Mais comme évidemment, on en avait parlé tous les deux la semaine dernière, de toute façon, comme on croyait pas une seule seconde à cette cérémonie de retraite de Rey Mysterio. Hein,
bah oui.
Bon, nous, on est des vieux, on est des malins, quoi. Hein, donc de toute manière, peut-être les jeunes se sont laissés prendre à l'affaire, mais nous, on nous la fait pas.
Exactement.
Et voilà, donc effectivement, on se doutait bien qu'il allait se passer un truc par rapport à ça. Et donc voilà, donc finalement, c'était assez attendu, si tu veux, pour moi, voilà, quoi. Il n'y avait pas vraiment de grosses surprises par rapport à ça. Finalement, le truc qui m'a surpris le plus, c'est le fait qu'Alistair Black décide de s'attaquer à Rollins direct à la fin du segment, alors qu'on, finalement, voilà, il vient défendre finalement l'honneur de Ray Ray, et c'est tout à son honneur, Alistair Black. Mais oui. J'ai presque surpris de le voir débarquer comme ça.
Bah non, justement, j'allais dire, il est plutôt en mode de bon face ces dernières semaines. Alistair Black, là, il avait défendu Cario quand... Enfin, essayé de le défendre du moins quand il menaçait de lui crever l'œil. Justement, le fait qu'il ait la menace sur Cario, ça l'avait fait arrêter. Alors que bon, Alistair Black, normalement, il est... Enfin, il semble ne pas s'arrêter à ce simple de choses. Mais là, non, non. Puis il y avait aussi Vengé après Mysterio dans les vestiaires la semaine d'encore avant. En attaquant Murphy, notamment.
Ouais.
Ou Buddy, je ne sais plus c'est quoi, quelle partie de son nom il a gardé. Murphy. Mais c'est bref. Murphy, mais bref, non, ouais, donc, non, il est plutôt sur cette pente-là en ce moment, à être le bon gars, respectueux de l'ancien Mysterio, qui est de ses potes. Je ne suis pas trop étonné par ça. Par contre, il y a un truc sur lequel j'ai tiqué sur l'entrée de CF et ses sbires. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais Austin Theory, il fait maintenant comme Murphy, du coup, il a ses deux mains jointes, tu vois, et les deux, ils marchent autour de lui avec les deux mains rassemblées, ouais. Un peu comme des, je sais pas, des gars qui vont prier, quoi. Donc c'était, j'ai trouvé ça marrant en fait comme attitude.
Ouais, ouais, ils sont exactement dans le même move tous les deux, ouais, effectivement, et ils vont faire ça aussi pendant toute la suite, puisque du coup, c'est une belle transition, mon papy, puisque derrière, on va enchaîner quand même avec le match entre Alistair Black et Seth Rollins. Alors, on va avoir un match quand même de plusieurs minutes. Assez compétitif, il va y avoir pas mal d'échanges entre les deux. Bon, on va dire que chacun va porter un peu son moveset habituel. Du coup, comme c'est deux gabarits assez similaires, je trouve que ça donne un bon équilibre, quoi, une bonne alchimie entre les deux. Voilà quoi, Rollins il va nous tenter une powerbomb, il va essayer d'y aller avec son springboard knee, mais finalement à la place d'ailleurs ça va être un bon move ça, parce qu'il va tenter ça, mais derrière en fait le Hollandais il va contrer avec un knee strike. Quand il va vouloir passer son black mass, Murphy et Theory vont monter sur la prone pour essayer de le déconcentrer, et c'est à ce moment là que un quatrième larron va débarquer, puisque Humberto Carrillo va arriver pour s'occuper des deux sbires du Messie, des deux disciples. Du coup, Black va réussir à surprendre Rollins avec un roll-up. Alors que Rollins, au préalable, aura déjà tenté un roll-up. Donc, roll-up sur roll-up, ça fait une victoire à la Alistair Black par roll-up. Et puis finalement, bah, après s'être occupé de Humberto Carrillo ringside, Murphy et Theory vont venir s'attaquer à Black. Rollins, il va se joindre à eux, bien évidemment. Il va porter un curb stomp à Carrillo et à Alistair Black. Et voilà. Comme ça, on va dire que ça va être sa manière à lui de s'assurer que Rey Mysterio n'aura pas de sidekick ce soir. Donc, du coup, t'as pensé quoi de cet opener entre les cordes?
Bah, comme tu dis, là, les deux physiques et les deux catch, ils correspondent bien l'un à l'autre. Donc, du coup, c'est vrai que c'est plutôt vivant leurs oppositions. C'est rapide, ça envoie du steak assez vite. Après bon, le finish au roll-up, bon, je pense que de toute façon il y a un quota roll-up par show, donc
oui.
Autant le prendre tout de suite, comme ça c'est réglé, au moins c'est un minimum. Quand tu montes quand t'as le booker qui arrive qui dit qu'est-ce qu'on va faire sur le show de ce soir, il y a la feuille blanche, il dit il nous faudra un roll-up, voilà, c'est réglé, c'est torché, enfin au moins un, il y en aura deux je pense, mais bon,
je crois qu'il y en aura même un petit supplémentaire.
Oui, voilà, il y en aura.
En y réfléchissant un petit peu, mais on vous en parlera plus tard, peuple de catch-up.
Exactement. Mais bon, donc oui, donc voilà, bon, ça, je passe là-dessus. Après tout, c'est un roll-up justifié, on va dire. Dans mon sens, que le match, ils ont envoyé du pâté, mais sans trop non plus cramer de prise. C'est deux mecs qui sont assez hauts dans leur positionnement, donc faut pas non plus qu'ils se prennent à tomber tout de suite. Pourquoi pas aller, ouais. Dans ces cas-là, le roll-up, moi, ça me va. On sait que de toute façon, c'est pas fini, quoi. C'est un match de passage. Très bien, ça se passe comme ça. Après l'intervention de Humberto Carrillo, voilà, c'est bien, c'est une feud avec plusieurs participants, puis ils sont tous régulièrement là, donc pourquoi, ouais, autant les voir, autant qu'ils participent. C'est mieux ça qu'un mec qui disparaît du jour au lendemain, quoi. Donc, puis ça se finit encore avec Rollins qui s'en sort grâce à ses sbires, donc ils étaient à 2 contre 3, vivement le 3 contre 3, quoi.
Oh bah oui, je pense que le tag team Playa, on va pas tarder à parler. Mais de toute façon, on va avoir l'occasion de reparler d'Humberto Carrillo en fin d'émission, donc stay tuned, peuple de catch-up. Alors, derrière, on va avoir une petite vidéo rapide pour nous remontrer la victoire d'Apollo Crews sur le United States Championship face à Andrade. Derrière, on va avoir une interview de la magnifique, de la belle, de la sublime Charlie Caruso dans une robe blanche très saillante. Qui va nous interviewer Angel Garza et Zelina Vega, tous de rose vêtus. Et donc Garza, lui, il se prend même pas la tête hein, maintenant hein, dans les interviews avec Charlie Caruso, puisque lui, il a décidé qu'une seule chose, c'est faire du gringue à la belle. Il fait le coup du charme. Il lui glisse quand même que comme la semaine dernière, il va s'occuper de Kevin Owens. Mais bon, c'est pas vraiment pour ça qu'il est intéressé. Donc il remet derrière, il remet une belle rose rouge à la Charlie. Zelina Vega visiblement apprécie pas trop les méthodes de son poulain et va vraiment aucun respect pour la nature, aucun respect pour les fleurs, et elle va arracher des mains la rose à Charlie Caruso.
Quel gâchis.
Quel gâchis, quoi. Et elle va lui balancer la rose à travers la figure. Petit détail sexy, une pétale viendra se déposer lentement sur le magnifique décolleté de Charlie. Voilà quoi. Ah. Vous voyez les papilles, ouais, nous on est comme ça. On a le sens du détail si on fait hommage à Kyrias, un de nos chroniqueurs. Donc voilà. Donc t'as quelque chose à rajouter sur Charlie Caruso, Angel Garza et Zelina Vega?
Non, mais je pense qu'effectivement on était tous les yeux fixés sur ce pétale qui volait lentement, venir se poser sur la belle fleur Charlie. C'était un instant magique dans ce roux.
Ah, c'était l'instant poétique de catch-up, les amis, ou l'instant libidineux, comme vous voulez.
Je vais essayer votre arme.
Alors, derrière, on va nous balancer un package vidéo avec un routier. Alors, je ne connaissais pas ce routier, je ne savais pas pour quelle société il travaillait, je ne sais pas. Mais apparemment, dans l'incrustation, son nom, apparemment, ça avait l'air d'être Shawn Michaels.
Je crois que j'ai déjà entendu parler de lui.
Ouais, alors apparemment, il a un gros camion, il a une grosse barbe. Et en fait, ce gars-là, apparemment, il a l'air de s'y connaître en catch, puisqu'il est là pour nous hyper le Edge versus Randy Orton de Backlash.
Eh oui.
Il va un peu nous vendre la rivalité entre les deux vétérans. Il va en profiter pour parler de qui ? Bah de lui, puisqu'il va en profiter pour parler des grands matchs de l'histoire de la WWE et entre autres des matchs de Shawn Michaels, quoi. Mais il va quand même nous donner son pronostic, le Shawn Michaels. Donc ça m'intéresse ce que tu vas nous dire là-dessus, papy, puisque il va nous l'ancien membre de la DX va nous pronostiquer une victoire d'Edge à Backlash. Alors toi, est-ce que t'es en accord avec Dédé le routier ?
Ah, Dédé le routier, bon, moi je pense que de toute façon, juste pour parler de son vote, c'est un vote pour équilibrer. De toute façon, il y en a un qui va dire Edge, l'autre va dire Orton, puis l'autre va dire Orton, lui, l'autre va dire Edge. On équilibre, certains cas sont liés comme Papy Flair avec Orton, ça c'est logique. Bon, après, Shawn Michaels, bon, allez hop, on en était où ? On en était un de plus pour Orton, donc dans ce cas-là, je dis Edge, comme ça on équilibre. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, on a pas mal de packages vidéo là, avec les vieux qui... c'est un peu comme c'est le confinement, quoi. Tu peux plus voir les gens, donc du coup tu as ton vieux tonton, je parle pas trop,
coucou,
bah, un autre vieux tonton qui t'envoie des vidéos un peu gênantes où il te dit ça, tu m'as pas oublié, comment ça se passe, ou vieille tata, enfin bref, qu'est-ce que c'est super tonton, vas-y, finis ton interview sur l'air d'autoroute et puis reprends ta route.
Ouais. Bon, de toute façon, pour nous vendre le plus grand match de catch de l'histoire, il fallait au moins un Hall of Famer. Et comme tu le dis très bien, on en aura au moins deux des Hall of Famer pour nous vendre ce match. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour Ric Flair.
Ah, on l'a déjà eu. C'est la semaine dernière.
Oui, t'as raison. Oui, en plus, c'est déjà passé. Ouais. Pouf, tu vois, ça y est, Alzheimer me reprend. Mais oui, c'est vrai.
Non, mais à force. comme on traîne avec des vieux, là, avec Ric Flair, Shawn Michaels, etc., bah, ils nous contaminent.
Voilà, exactement. Voilà. C'est le corps. On est vraiment en pleine période du Corona Mania. Hein. Ça n'a jamais aussi bien porté son nom, quoi. Donc voilà. Donc derrière, après ce package vidéo du Hall of Famer d'Aidé le Routier, on part en coulisses où on retrouve Lana qui va être en train de taper la tchatche avec le MVP. Mais au moment où elle commence à tchatcher, mais bon, direct, il l'interrompt. Il lui dit ouais, qu'il doit se préparer parce que ce soir, il a un match contre le bel homme. Donc Lana quand même, elle lui glisse que même on peut même dire qu'elle l'accuse qu'il utilise l'Ashley pour booster sa carrière à lui. Et finalement MVP, bah, il fait exactement la même chose puisque lui aussi il accuse Lana de se servir de l'Ashley pour booster sa carrière. Donc un partout la balle au centre. Sauf que Lana elle va pas apprécier ce match nul et elle va mettre une bonne gifle dans la gueule à MVP. Alors toi t'aurais fait comme Lana, t'aurais mis ta main à travers la figure de MVP.
Ouais, probablement, parce que j'aime pas trop sa tronche MVP, je t'avouerais. Par contre, un truc que j'aurais pas fait comme Lana, c'est me maquiller avec le pot de peinture, là.
C'était, ah, la cruelle.
C'était assez violent, là. Je sais pas si elle voulait passer incognito. Je veux pas qu'on la reconnaisse, je ne sais pas. Mais bon, bref, c'est plus ça qui m'a gêné, finalement. Dans le truc, j'ai dû me repasser le segment pour écouter ce qu'elle disait, parce qu'en fait, tout du long, je disais, mais qu'est-ce qu'elle a foutu, là, sa tronche, là. Elle, je sais pas, elle a glissé, elle est tombée dans le pot directement. Pauvre Lana.
Ouais.
Mais non, sinon, ça, pour être plus sérieux, c'est un intérêt très superficiel.
Totalement limité.
Voilà.
Voilà. Derrière, on continue avec le backstage, hein, parce qu'en ce moment, à Roux, on en a beaucoup, hein, du backstage. Hein.
Et il y a des vidéos et du backstage. Hein. Il y en a beaucoup.
Ouais, des vidéos et du backstage, ouais, beaucoup, ouais, c'est vrai. Ouais. Déjà, on s'était déjà fait la réflexion la semaine dernière, donc les amis, on continue sur le même mode. Donc là, cette fois-ci, on quitte Charlie Caruso pour retrouver Kayla Braxton, et qui est en pleine interview de notre nouveau champion US, hein, à nous tous, pauvre gueux, le Apollo Crews, qui nous dit que qu'il est heureux de détenir la ceinture, qu'il compte bien la défendre ce soir, et contre Kevin Owens. Voilà, donc du coup, on a le KO qui débarque, qui vient féliciter Crews pour l'obtention du titre. Mais il nous explique qu'il a le sentiment qu'il ne mérite pas l'opportunité de ce match. Parce qu'il a perdu la semaine dernière contre Angel Garza. Donc, vraiment, un grand moment d'honnêteté de la part de Kevin Owens. Mais Crews, lui, il lui explique que lui, il veut lui donner cette opportunité parce que c'est dû au respect qu'il lui porte. Donc, bon, moi, j'ai trouvé ça un peu étrange. Et finalement, Owens, il reprend bien, il se retrouve dans sa peau de KO, quoi. Et il lui dit ok, puisque c'est comme ça, ton règne va s'arrêter ce soir. Et derrière, du coup, on va avoir un match entre Apollo Crews et Kevin Owens qui va avoir un certain temps. Les gars vont s'envoyer en un contre un, vont s'envoyer pas mal, quoi. Moi, j'ai
plutôt bon match. Hein.
Ouais, j'ai plutôt apprécié la phase, parce qu'on va aller au bout du segment. J'ai plutôt apprécié la phase entre Apollo Crews et Kevin Owens, quoi, avec entre autres un Crews qui va porter un gros Olympic Slam. Mais derrière, la vengeance va être terrible du Québécois, puisque lui, il va coller son super kick. Et il va y aller d'un moonsault pour un compte de deux. Excusez-moi, les amis. Il va vouloir enchaîner avec sa powerbomb, mais il va être contré par le Crews qui va lui coller un Enzugiri, qui va lui coller un deuxième Olympic Slam. Derrière, on va avoir un standing moonsault pour un nouveau nearfall. Crews, il va monter sur le turnbuckle, il va y aller d'un splash. Et je crois qu'il va en faire un deuxième. Et il va en tenter, un troisième, mais il va être encore collé par un super kick. Et finalement, Owens va monter sur le poteau. Le poteau ouais, excusez-moi, j'ai un mania qui me reprend. Il va monter sur le poteau, donc le Kevin Owens, pour tenter sa senton bomb. Mais Crews va le contrer. Et au moment du contre, bam, ni une ni deux, qui c'est qui débarque? La Latino Family. Voilà, le crew à la Zelina Vega. Et donc Andrade et Angel Garza vont attaquer les deux lutteurs dans le ring. Et évidemment, on sort la carte Teddy Long. Que se passe-t-il, les amis? Vous l'avez tous deviné. On va s'enquiller. Un tag team play à baby. Et on va donc se retrouver après la pub, ou pas si vous téléchargez illégalement, entre Apollo Crews, Kevin Owens, face à Andrade et Angel Garza. Où là, on va avoir un match beaucoup plus court. Hein, le play-by-play va être beaucoup plus rapide. Les deux Mexicains vont quand même avoir un peu le temps de s'envoyer. Mais du coup, Crews et Owens, qui venaient de se battre juste quelques secondes auparavant, tout d'un coup se découvrent une grande amitié et vont s'y filer sévère face aux Mexicains. Cruz va vraiment être bien dans son rôle de champion US, hein, parce qu'il va avoir la partie belle. Et il va finalement coller un Enzugueri à Andrade et une Toss Powerbomb. Donc, je fais mon mea culpa de la semaine dernière. Tu avais
raison.
Son finisher, c'est bien la Toss Powerbomb et non pas le Standing Moonsault comme je l'avais annoncé la semaine dernière. Voilà, donc voilà, le 1, papy 1, tonton Chris 0. Et voilà, et finalement, victoire des Face, tout est bien dans le meilleur des mondes. Apollo Crews et Kevin Owens gagnent le match. Donc, je vais pouvoir respirer. Papy, qu'est-ce que tu as pensé de tout ce segment-là, du 1 contre 1 jusqu'au 2 contre 2 et à la victoire finale de nos amis Face?
Alors moi, ce que j'ai pensé, déjà le plus important, qui je pense qu'il faut retenir de tout ce segment, c'est le fait que j'avais raison. Tu vois, ça c'est très important que oui, ça soit noté. Voilà, notez-le, j'avais raison. C'est réglé.
Cet homme a raison.
Pour une fois, il faut le signaler.
À la fin du match des tag teams, on retourne backstage avec Kayla Braxton, qui nous tient le micro avec Asuka. Et qui va, comme d'habitude, nous faire une promo en japonais, hein, afin qu'on comprenne à peu près tout. Donc, on espère que Irem va être
limpide
pour nous faire la traduction à l'occasion. Voilà. Et puis finalement, elle va quand même nous dire un petit peu dans un anglais approximatif que Nia Jax, qu'elle va se débarrasser de Nia Jax à Backlash, qu'elle est la meilleure et que de toute façon jamais elle pliera devant Charlotte. Jamais elle ne pliera le genou devant Charlotte Flair. Voilà. Puisque plus tard dans la soirée, on va avoir un match champion versus champion entre Asuka et Charlotte Flair. Derrière, on retourne à la fameuse rivalité entre les Street Profits et les Viking Raiders. Voilà, qui vont s'affronter au bowling cette fois-ci, après la hache, après le basket. Voilà.
Et le golf.
Et le golf, bien évidemment, la semaine dernière. Cette fois-ci, on va avoir droit à toute une séquence. Entre les Viking Raiders et les Street Profits dans un bowling où ils vont mettre un peu le dawa et c'est les Vikings qui finalement vont remporter la partie en trichant, bien évidemment. Voilà, qu'est-ce que t'as pensé de tout ce segment?
Alors la semaine dernière j'avais dit que j'avais un peu perdu le filet avec le golf, là c'était un poil mieux, j'ai trouvé que c'était plus dynamique en fait comme truc. Alors, c'est peut-être aussi parce que le bowling est naturellement plus sensible à être fun que le golf, je pense. Mais ouais, bon, ça mangeait pas de pain, c'était pas non plus la grande éclate, mais je me suis moins ennuyé, on va dire, qu'avec le golf.
Ouais.
Plus que ça.
Ouais, moi aussi, ouais. Disons qu'il y a eu quelques passages, effectivement, assez marrants. Et ouais, très franchement, ça commence un peu à me saouler.
Il est temps qu'il finisse, hein.
Ouais. Il est temps qu'on revienne un peu au catch, là.
On a compris qu'il y avait des bouts de poulet partout. On a compris que le rival plaisait aux femmes, mais par contre, pas l'autre. Voilà, ça, on a compris.
Ouais, voilà. Je crois qu'au bout d'un moment, on a bien pigé l'affaire, quoi. Donc c'est vrai que, voilà. Moi c'est vrai que là, je peux pas dire que je fais partie des très, très enthousiastes sur cette histoire-là, parce que ça commence à traîner en longueur, quoi.
Donc, bon, deux semaines, normalement.
Donc, voilà. En tout cas, bon, on peut dire que, finalement, il y a match nul, hein. Donc, on en est à deux partout, donc on espère que la cinquième manche, le best of series va se terminer par un match, quoi. Hein, et je pense que ça va se terminer à Backlash par ça, quoi, de toute manière. Donc,
ou un bras de fer.
Donc, voilà, ouais, ou un bras de fer. Oui, peut-être qu'on va avoir un concours de bras de fer. C'est vrai que ça, c'est un des grands classiques à la WWE d'ailleurs, quoi. Donc pourquoi pas.
Ils vont jouer à la tomate. Mais bon, je sais pas.
Ou à la marelle.
À la marelle, tout à fait, ouais.
Pendant qu'on y est, allons-y. Voilà, alors derrière, qu'est-ce qui se passe? Après ce segment entre les Street Profits et les Viking Raiders, on va voir les Iconics, on va revoir vite fait les Iconics qui attaquaient Alexa Bliss et Nikki Cross la semaine dernière. On vous en avait causé déjà dans l'oreille à cette époque-là. On voit d'ailleurs les deux équipes s'engueuler un petit peu backstage. Et puis finalement, on retourne sur le ring pour un contre un de la division féminine entre Billy Kay et Nikki Cross, accompagné des Cupines qui sont ringside. Ça va être un match assez rapide, hein, un peu en
yes.
Plus, on peut pas dire que là avec Billy Kay, on peut pas dire qu'on est que ça fasse rêver énormément entre les cordes. Elle va mettre une claque à Cross qui va lui répondre avec un coup de forearms. Nikki Cross, elle est bien excitée, elle va monter sur le poteau pour enchaîner avec un splash et puis lui mettre son running bulldog. Cross, elle est, c'est pour moi celle des deux qui est le plus en feu, quoi. Elle va coller un drop kick. Elle va remonter sur le poteau. Finalement, son splash va pas servir à grand chose parce qu'il va y avoir personne dessous. Et Kay va en profiter pour lui appliquer une forme de Uranagi. Et pour le compte de 3, et remporter la victoire ce match, ça t'a intéressé, passionné, enthousiasmé?
Alors, comment dire ça? non, bah, en fait, c'est, je vais pas être méchant avec les filles parce que il faut que, enfin, dans l'intérêt de la ceinture et dans l'intérêt de la division féminine tag team, il faut quand même qu'on les voit de temps en temps catcher, il faut qu'il y ait de la rivalité. Et si et ça, c'est bien que les challengers, enfin, elles sont même pas challengers vu que pour l'instant c'est Bayley et Sacha les challengers. Mais justement, ouais, on sait qu'elles vont prendre la suite certainement. Donc, dans un point de vue booking, c'est ce qu'il faut faire. Après, dans le ring, non, effectivement, c'est pas très bon. On voit qu'elle manque. Enfin, surtout Billy Kay, elle est vraiment green quoi sur ce coup-là. Elle fait pas grand-chose de vraiment intéressant. Même son finisher est fade. Voilà, je ne sais que dire de plus. Bon, il faut, à la limite, si ça peut durer une minute de moins, pourquoi pas. Plus vite, ça, il faut qu'elle passe par là, qu'elle fasse leur expérience.
Mais... ouais. Au moins, elles n'auront pas fini par un roll-up.
Exactement, il y a un vrai finish. Ça, c'est vrai. Voilà. Bravo.
Pour une fois, Billy Kay a placé son finisher, d'ailleurs, que je ne connaissais même pas, je t'avoue.
Personne ne connaissait même pas, elle. Oui.
Elle l'a peut-être découvert juste avant de rentrer sur le ring. Tiens, après, en fait, tu vas coller un Uranagi. Ah, ok, d'accord. Et c'est quoi, déjà, cette prise?
Ouais, c'est ça, en fait. Ou alors, on lui a dit, tu fais un roll-up, et elle a fait l'Uranagi, tu vois. Elle ne savait pas trop. Ça doit être ça. Allez, hop, roule.
Elle était perdue. On retourne en backstage, ça n'arrête pas ce soir. Voilà, Charlie Caruso, ah, on retrouve Charlie Caruso, bon, ça fait toujours plaisir ça. Qui est avec le bel homme, qui est avec Drew McIntyre. Et ça va être assez rapide puisque lui va tout simplement lui dire que de toute façon il ne refuse aucun challenge car parce qu'il aime ça les challenges, le bel homme.
Voilà.
Et donc ce soir, bah, voilà, ça va être distribution de Claymore Kick à MVP et Bobby Lashley. Et derrière, la petite surprise puisque Rey Mysterio est là par satellite. En mode confinement. Voilà, il va nous expliquer, mon rêve d'amour, qu'il est toujours en convalescence pour sa blessure à l'œil que Seth Rollins lui a infligée. Qu'il ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir. Pour l'instant, les médecins n'ont pas donné d'accord, donc il est un petit peu dans l'expectative. Le Mexicain, il va nous indiquer qu'il ne sait pas si ça signifie la fin de sa carrière, mais que c'est lui qui décidera de sa fin de carrière et non pas Seth Rollins. Merci, Réré. Derrière, on voit le fiston, voilà, une affaire de famille, le fiston Dominique qui va débarquer. Ah oui, quand même, il est de retour, le fiston. Et il va dire que, bah, il faut bien qu'il y ait quelqu'un de la famille qui se venge de Rollins, quoi. Et que de toute façon, et le papa, lui, il va nous expliquer que toute la famille a vu ce que Rollins lui a fait et que toute la famille est particulièrement énervée et réclame vengeance. Et du coup, papa, il se lève, il va faire un tour aux toilettes, et pendant ce temps, Dominique, lui, reste devant la caméra, et il va expliquer que ça sera œil pour œil, dent pour dent. Et je finirai juste là-dessus avant de te passer la parole, parce que j'étais mort de rire, parce que derrière Rey Mysterio et Dominique, il y avait une affiche d'un vieux WCW Nitro.
J'ai vu.
Voilà, et ben, figurez-vous, les amis, que j'ai exactement la même affiche.
Oh là là!
Dans ma chambre à l'EHPAD. La même de chez même de chez même. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait: ah non, mais on est connecté avec le Réré, quoi.
Ouais, soit ça, soit il enregistré depuis ta chambre.
Voilà, exactement. Peut-être que c'est moi, Rey Mysterio. Parce que de toute façon, jusqu'à preuve du contraire, on nous a jamais vus dans la même pièce, Rey Mysterio et moi. Hein. Donc, bon, et puis allez voir quelques vieilles vidéos de catch-up. Voilà, il m'arrive de porter des masques, tout ça, quoi, voilà, quoi. Donc, peut-être que je dévoilerai le secret le 6 juin 2020. Pourquoi le 6 juin 2020 ? Puisque Catch-Up fêtera à cette occasion ses 4 ans d'existence, peuple de Catch-Up. Donc, ne manquez pas ça pour la review de SmackDown.
Là, c'est vraiment logique, hein.
Mon papy, qu'est-ce que tu as pensé de ce vidéo package là, avec la famille Mysterio ?
Bah justement, tu vois, ce vidéo package, ça fait partie des choses qui m'ont rendu perplexe, en fait.
Ah.
Alors, parce qu'il y a le fond et la forme. Au niveau de la forme, j'ai envie de dire que tu l'as mieux vendu que Rey Mysterio lui-même. Parce que, je suis désolé, hein, mais son segment, ça manquait un peu de pêche, quoi. Il était là, damn, Seth Rollins, oh, damn, oh, vilain, pas beau.
Oui, c'est un peu chiant.
C'est même Dominique était un poil plus hargneux, tu vois, que Ray. c'est voilà, il venait de se réveiller de sa sieste, je sais pas, il était pas chaud. Ouais, oh là, non, hein, c'est pas. Et autre chose qui m'a rendu un peu perplexe, c'est que, enfin, le segment c'était la retraite de Rey Mysterio, et donc au final, il y avait rien de prévu, quoi, parce que Seth Rollins avait rien organisé, Rey Mysterio venait pas, il a dit qu'il allait le chercher, mais bon, a priori il pas allé le chercher vu qu'il était tranquillement chez lui à San Diego, Californie, ou je sais plus quoi. Donc voilà, donc toute cette partie-là m'a vraiment rendu perplexe. J'ai pas tout bien compris j'étais vachement hypé en fait par l'annonce de la retraite, même si je savais qu'il n'y avait pas avoir de retraite, mais je me disais ah, il y aura un segment super. Et en plus, effectivement, c'est une histoire qui me plaît, notamment l'aspect Dominique. Je suis content qu'il revienne parce que à l'époque des Latinos, j'étais content de le voir tourner, parce qu'on sait que tôt ou tard, ça va se finir avec Dominique et qui va ou prendre la relève ou assister son père. Enfin, il y a quelque chose qui ça se sent là, ça traîne, il y a un truc qui va se passer. Et enfin, moi personnellement, j'ai envie que ça se passe. Si c'est avec du public, ce sera encore mieux. Mais voilà, si jamais Dominique est prêt, il faut vraiment qu'il la fasse, cette histoire de père et fils dans le ring ensemble. Et donc voilà, donc je suis partagé entre le contentement de voir l'histoire évoluer dans le sens que j'ai envie, puis la façon dont ça a été présenté en fait. Là, ça, j'ai pas senti le feu sacré là sur ce segment. Je sais pas. Toi, est-ce que t'as vu ton amour pour Réré? Est-ce que ça t'a permis d'éviter ce petit écueil, ou est-ce que toi aussi t'étais perturbé par l'ambiance?
Je suis d'accord avec toi sur le principe que oui, c'était un peu mollasson, quoi. Et qu'effectivement, ouais, là, il n'était pas. C'était mou, quoi. Et moi non plus, j'ai pas été super emballé, quoi. Et finalement, ce qui a remis du peps, c'est justement l'arrivée de Dominique, quoi. C'est ça, parce que si ça avait été que Rey Mysterio tout seul, effectivement, ça aurait été un peu foiré quand même, quoi. Et donc je sais pas comment ça se fait qu'il avait peut-être pris un Lexomil là, je sais pas ce qu'il avait là, où il avait pris trop d'antidouleurs pour son œil, mais voilà quoi, c'était ouais, effectivement c'était un peu trop mou à mon goût, et ça a un petit peu gâché le package. Voilà, c'est un peu Dominique qui a remonté le truc, quoi. Et il semble bien vénère, le jeune, donc écoute, ça nous
un jeune qui en veut.
Ouais, un jeune qui n'en veut, et un jeune qui va peut-être bientôt faire son arrivée entre les cordes à la WWE. Et voilà. Et puis moi, j'aime bien cette filiation qu'il y a dans le catch avec les Mexicains. Et donc, du coup, voilà, après le papa de Rey Mysterio, maintenant derrière Dominique. Je suis curieux aussi de savoir, Dominique, quel genre de nom il va prendre dans le futur. Est-ce qu'il récupérera à terme le masque de papa? Donc, tout ça, c'est des choses qui m'intéressent. Donc, je suis content de voir le fiston venir s'intégrer dans l'équation, quoi. Ça, c'est plutôt un truc positif, quoi.
Parce que c'est purement mexicain, ces histoires de passation de masque, de
ah, oui.
Je reprends le nom et je rajoute le junior, etc. Ou je modifie un peu, parce qu'il y avait Dos Caras par rapport à, c'était son oncle, je crois, Alberto Del Rio, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ouais. Bref, c'était 1000 Mascaras.
Voilà, donc en fait, tu reprends un peu, tu le tiens un peu. Donc peut-être qu'il y a aussi varié sur le nom pour ne pas faire junior. Mais effectivement, et je trouve que c'est, je croise vraiment les doigts pour que Dominique soit compétent dans le ring. Mais si c'est le cas, ça serait, enfin, je trouve que c'est unique comme occasion d'avoir ce type de passation et de rivalité, mais de storyline dans chez la WWE, quoi. J'ai pas à souvenir qu'il y ait eu une autre passation père-fils comme ça, quoi. Moi, je serais bien content de voir ça, quoi.
Ah ouais, moi pour le coup, c'est le genre de truc qui m'intéresse complètement, donc bon, écoute, on verra bien, on va voir la suite. De toute manière, là, la rivalité est complètement lancée, donc on va voir, ça se trouve peut-être que Dominique va peut-être même intervenir tout seul, qui sait, on verra bien à terme, dans un premier temps, peut-être qu'il va venir dans cette affaire régler un peu des comptes tout seul, peut-être sans papa, parce que peut-être que papa sera pas en état.
Ah, donc, ça serait peut-être justement l'occasion de leur relancer l'histoire, d'avoir la musique de Mysterio qui débarque, c'est son fils, il se fait péter la gueule parce qu'il se fera péter la gueule, et puis du coup, Ray veut le venger, et puis au final, le fils revient, enfin ouais, t'as moyen quand même de créer un truc sympa, quoi. Franchement, là, je croise vraiment les doigts pour qu'il réussisse à transformer cet essai-là.
Ouais, je pense, je suis assez d'accord avec ça. Donc voilà, donc on va quitter nos Mexicains, et puis derrière, on va avoir Nia Jax au micro, avant d'affronter Kerry Zane, où elle va nous expliquer que Asuka n'a pas mérité son titre d'Euro. qu'elle l'a seulement reçu de Becky Lynch parce que Becky Lynch a été trop travaillée par les hormones.
Voilà, c'était bien.
Et finalement, et puis elle se présente comme une victime de la situation et pas comme une méchante. Donc voilà. Donc du coup, je vais enchaîner avec Nia Jax. Oui. J'ai eu un petit intervalle, donc je vais quand même enchaîner par Nia Jax. Derrière, il va y avoir un match avec Kairi Sane. Alors si vous avez un peu lu les infos, il semblerait que pendant ce match, en réalité, Kairi Sane se serait blessé à la tête de manière assez importante. Et aura eu quelques points, mais du coup on va rien voir du tout à l'écran, ça aura été complètement coupé, complètement enregistré comme il faut. Finalement, Nia Jax, elle va envoyer la japonaise contre l'un des poteaux, et elle va enchaîner avec son leg drop pour le compte de 3. Asuka va quand même débarquer pour venir confronter Jax, mais Nia Jax, elle va même pas se prendre la tête, et elle va se barrer directement en coulisses, quoi. Donc t'as pensé quoi de cette affaire Nia Jax, Kairi Sane, Asuka?
Bah, en fait, j'étais limite content que ce soit minimaliste le passage. Et j'ai eu peur hein. Quand je venais à Ajax au centre du ring avec un micro. J'ai dit, oh là là, voilà, ça y est, j'étais prêt à le noter. Tu vois, j'ai mon stylo et mon papier à dire, ça sera le flop. Je le sens. Et c'était pas bon, mais par contre, c'était court. Donc, du coup, bah, au moins, elle nous a épargné ça. Et le match, bah, pareil, du coup, comme ça a été traficoté, bah, au final, on garde que le passage où elle est violente, où elle claque sa tête. Contre le tablier du ring, contre les escaliers, le leg drop aussi tombe sur la tête, même s'il n'était pas super dynamique le leg drop, mais bon, on va dire que ça passe, elle a peut-être voulu l'assurer du coup, comme l'autre était blessé. Mais bon, bah, du coup, bah, au final, l'un dans l'autre, ça a fait le métier pour mettre Nia Jax en mode violente, quoi, c'est tout. On pouvait pas espérer beaucoup plus, je pense. Hein.
Non, ça nous a pas emmené beaucoup plus loin, quoi. Donc voilà, et en fait, juste avant le match de Nia Jax et Kairi Sane, on a eu un autre package vidéo.
Mais oui !
Avec le retour du 24-7, 48-8, 49-3, 7-Eleven. European 7-Eleven Championship, où on voit le gros Konski qui est chez lui. Voilà, hein, il est à la maison avec la ceinture sur l'épaule. Et il va être avec un pote. Ils vont partir dans le jardin. Apparemment, il a l'air d'avoir un grand jardin, le Rob Gronkowski. Et un jardinier vint à passer par là. C'est la bonne époque pour jardiner. De toute façon, faites votre potager, les amis. Et voilà. Et il s'avère, bien évidemment, que le jardinier, c'est le Airtrousse. Mais oui, papy, c'était ça la surprise.
Je ne m'en serais jamais douté.
Mais oui, mais je me doute bien que tu t'en doutais pas. et le Airtrousse, bah, qu'est-ce qu'il va faire pour le 24-7? Eh bah, ben, il va venir porter un roll-up pour le roll-up championship 24-7 au Gronkowski. Et ça y est, c'est terminé l'affaire avec l'histoire du footballeur américain. Airtrousse récupère son bien. Et Airtrousse est donc notre nouveau champion 24-7.
Ah.
Voilà, 69e fois sur les deux dernières années, je pense.
Sur l'année en cours. 69, c'est sur l'année en cours.
C'est sur un an en cours ?
Je pense, ouais. Parce qu'à mon avis, il doit être à 250, sinon.
Ouais. Bon, écoute, ouais.
Mais adieu, gros con.
Ouais. Voilà.
Que je dise.
Donc, écoutez, oui, même moi, je ne sais pas quoi vous dire. D'ailleurs, j'avais donné mon flop, d'ailleurs, à Gronkowski la semaine dernière. Donc, voilà. À peu près zéro intérêt, je crois, on peut dire.
C'est ça. Alors le seul truc que j'ai remarqué parce que en regardant le segment, je me suis rendu compte qu'en fait le maillot d'arbitre avait la capacité de figer les catcheurs en fait. Parce que systématiquement quand le mec révèle son maillot et qu'on voit le maillot d'arbitre, bah, le mec il est surbloqué comme un con. Ah, et puis du coup ça permet de faire le roll-up discretos derrière quoi. Il y a jamais un gars qui se dit il y a un arbitre, je me barre, tu vois. Ils sont toujours bloqués. Ah, oh, mais t'as un maillot d'arbitre, que va-t-il m'arriver? Roll-up. Emballé, c'est pesé.
Ouais, voilà, ouais. Ouais,
c'est mon observation du jour, mais ça vaut pas plus que ça vaut pas plus que le segment. Hein. Ouais, désolé.
Voilà, Roll Up Championship. Hein. Que dire de plus? On en a déjà beaucoup parlé là, je trouve.
Trop.
Ouais. Allez, derrière, bon, on enchaîne hein, avec une vidéo package. Hein, vous avez vu ce soir. De toute façon, on a l'impression de parler que de ça.
Ouais, surtout cette période là, c'est enchaîné. Hein, les packages micro.
Ça n'a pas arrêté. Donc là, du coup, cette fois, on revoit les images de la promo d'Edge sur Randy Orton de la semaine dernière. Ah, oui. Derrière, c'est la vipère qui parle. Donc la vipère parle. Donc il nous indique que le WWE Network. Donc il regarde le WWE Network. Déjà, c'est une information, quoi. Randy Orton a le WWE Network chez lui. Voilà quoi, ça lui a rappelé beaucoup de choses, ça lui a rappelé beaucoup de choses, dont que beaucoup disent que Ric Flair est le plus grand de l'histoire et que Orton il est d'accord avec ça. Donc ça tombait bien que justement voilà le papy il avait l'œil en disant que bah que Flair justement il était présent la semaine dernière. Et qu'est-ce qu'il a dit le Ric Flair? Bah que il était c'était pas peut-être pas lui le meilleur, mais que c'était certainement Randy Orton le meilleur quoi. Donc voilà, donc Edge, il a peut-être plus de passion pour lui, pour le business, mais que peut-être c'est vrai, mais que bon, à Backlash, il va lui prouver que c'est lui le meilleur et que l'histoire se terminera avec les trois lettres les plus dévastatrices du sport entertainment, en l'occurrence RKO. Alors, totalement subjugué par la promo de Randy Orton ?
Ah ben là, je suis KO par le RKO, là, c'est... Je ne sais quoi, enfin, je ne peux plus parler, voilà, c'est... Non, mais c'est nul, quoi. Ça n'avait aucun intérêt. De toute façon, la rivalité n'a aucun intérêt. Et les segments avec les vieux n'ont aucun intérêt. Et puis, leur segment à eux, en plus, comme tu le disais, ils ont repassé un bout du segment d'Edge. Mais ce n'est pas 5 secondes. Hein. Ils ont repassé un bon bout, quoi, moi, j'ai trouvé. Et ben, j'en sais rien. Arrêtez d'essayer de nous vendre ce match. À la limite, si vous voulez le vendre, passez des images d'anciennes oppositions, qu'on voit que le RKO soit violent ou qu'il se déteste vraiment, j'en sais rien. Mais montrez-nous autre chose que des mecs qui parlent pour nous vendre un truc invendable. Arrêtez, s'il vous plaît. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'en peux plus. Hein. Franchement, c'est...
Ah, mais on en avait déjà parlé la semaine dernière. Moi, je n'attends qu'une seule chose, c'est Backlash et qu'on en termine avec cette histoire d'Orton et Edge et qu'on passe à autre chose, quoi. Ah, voilà. Ouais. On est un petit peu comme dans le même délire avec les Viking Raiders et les Street Profits. On attend que ça, voilà. On attend de passer à autre chose.
Là, je trouve que c'est même plus, enfin, c'est plus une souffrance que les Viking Raiders et les Street Profits. Street Profits, encore, t'as un petit coin de la bouche qui se met en sourire, tu vois. Tu vois, c'est rigolo, un morceau de dinde dans les boules de bowling. Mais là, t'as rien. C'est...
Ah ouais, c'est un peu le vide. Hein.
Qui se foutent sur la gueule, merde.
La bagarre, bordel! Qu'est-ce que vous attendez là? Faites quelque chose. Ouais. Alors, une qui fait quelque chose, mais parce qu'elle fait quelque chose partout, à Raw, à SmackDown, à NXT, à Dynamite, dans tous les shows
qu'elle est
autorisée. Voilà. Elle ne connaît pas de jour de congé, c'est Charlotte Flair. Elle prend le micro avant son match contre Asuka pour dire qu'elle va défendre victorieusement son titre à NXT à In Your House, qui se déroule. La semaine prochaine, si je ne me trompe pas, le week-end prochain, si je ne me trompe pas, le pay-per-view. C'est même peut-être ce week-end, c'est dimanche, je crois.
Il me semble que c'est ce dimanche, ouais, parce qu'il est décalé d'une semaine avec Backlash.
Ouais, ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Et donc, du coup, comme le public il est composé, ça tombe bien, de lutteurs de NXT, Flair, elle les invite à venir prendre les places de Rhea Ripley et Yoshi Rai à l'avenir pour qu'elles puissent leur faire plier le genou à eux aussi. Et puis, elle nous rappelle tout son palmarès, hein, qui est long comme deux bras, et en disant bisque rage à Asuka, qui aimerait bien avoir le même.
Voilà.
Asuka, son palmarès est quand même pas trop dégueu non plus. Non. Derrière, on va enchaîner avec ce fameux match champion versus champion entre Asuka et Charlotte Flair. Alors, un match assez compétitif, ça va pas être super long, mais elles vont quand même avoir le temps un peu de développer leur moveset. Flair, bien évidemment, va quand même tenter et porter son figure fort. Mais la championne d'Euro va le casser et va rouler à l'extérieur du ring. Derrière, la musique d'Asuka se déclenche, truc bizarre. Et en fait, c'est Nia Jax qui apparaît en portant le masque de la japonaise. Jax va enlever le match et elle révèle quoi ? Elle révèle qu'elle a copié la japonaise. Elle s'est mis le même maquillage que la championne d'Euro. Ah là là, mais quelle futée cette Nia Jax.
Et oui.
Et donc du coup, Asuka, elle court vers la rampe et pour pouvoir s'attaquer à Nia Jax. Pendant ce temps, l'arbitre, lui, il va faire son taf. Il va faire le décompte de 1 jusqu'à 10 et ça va aller jusqu'à 10. Et du coup, Charlotte va remporter le match par décompte à l'extérieur. Et pendant ce temps, Jax va attaquer Asuka, quoi, voilà, et ça va se terminer de cette manière-là. Donc un truc qui part un peu en sucette, qui tourne un peu à l'autre boudin, et pour un match qui finalement aurait pu porter quelques promesses, mais qui finalement se sera terminé un peu dans le delbord, comme on dit chez moi. Et voilà, victoire de Charlotte Flair par Asuka, par des comptes extérieurs. T'étais ravi de retrouver Nia Jax à nouveau pendant ce Raw, mon papy ?
Bah oui, là c'était. Tu vois, en fait, j'en avais marre, moi, d'avoir Charlotte et Asuka qui se battent dans le ring. Franchement, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est voir Nia Jax nous donner des cours de maquillage. C'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on allume la télé, qu'on paye 9,99 pour regarder le network. C'est pour ça, c'est ça qu'on veut. Non, mais après, il fallait qu'elle intervienne. De toute façon, là, on en parlait tout à l'heure avec Aleister Black et Seth Rollins. C'est le genre de match où c'est dur de trouver un perdant, quoi. Là, c'est bien, elle intervient, ça fait des comptes extérieurs. Le peu de temps qu'elles ont été dans le ring, elles se sont bien envoyées, les deux, avec beaucoup de soumissions, j'ai trouvé. Ça se contrait, hop, je t'en mets dans une autre soumission. C'était plutôt dynamique. On sent qu'elles ont quand même une bonne dynamique à L2. Et puis voilà quoi, et la promo de Charlotte plutôt bien aussi. J'ai eu peur au début parce que je me suis dit, elle va nous vendre du NXT dans un show Raw. C'est le genre de truc que j'aime pas personnellement. Et puis d'une part, sa promo était bien faite quand elle a réussi à se foutre entre guillemets à dos public, même si forcément c'est un peu truqué. Et puis après, elle a vite passé sur Asuka et puis le match s'est vite déclenché derrière, donc c'était pas trop long non plus. Dans ces cas-là, ça fait pas de mal en fait. Mais bon, après, Nia qui arrive et puis voilà, elle casse. Je pense pas qu'elle ait blessé Asuka, on pourra la remercier déjà pour ça. Puis voilà, je ne sais pas. Ouais, voilà. Bon, toi, tu devais être aussi ravi de l'avoir arrivé.
Oh là là, que du bonheur. Vraiment là, je baignais dans mon jus, tu vois quoi. Tellement j'étais content de l'avoir de retour, quoi. Parce que le coup, j'étais plutôt content de l'affiche en fait entre Charlotte Flair et Asuka. Je m'attendais à un truc assez sympa. Effectivement, je me posais la question du finish parce que ça allait être compliqué. Donc finalement, lors d'histoire de décompte à l'extérieur, ça c'était plutôt pas trop mal joué, j'ai trouvé. Le fait de retrouver Jax et tout ça, ouais, c'est vrai que Nia Jax elle passionne tellement pas que c'est vrai que c'est pas ça qui nous met en joie, quoi. Donc
bah, bon, après, elle profite de la lumière des autres, hein, sur ce coup-là. Charlotte Asuka, c'est royal, hein, au niveau féminin.
Clairement, c'est tout à fait ça, quoi. Donc voilà, donc écoute, on laisse les filles à leur décompte extérieur et on va passer à autre chose. On va trouver une autre fille, puisque voilà, une belle fille, on va retrouver Charlie Caruso. Qui va donc interviewer notre maquillée à la truelle, en l'occurrence Lana. Voilà quoi. Et qui revient parce qu'elle veut revenir sur la claque qu'elle a mis à MVP au début du show. Et Caruso, elle veut aussi savoir qui c'est qui est à l'initiative du fait qu'elle soit plus aux abords du ring pendant les matchs de Bobby Lashley. Et Lana, elle nous explique que c'est son choix à elle. Mais elle en dit pas plus et elle s'en va. Voilà. Et derrière tout ça, les amis, ça nous amène, et oui, déjà, après ces 12 000 packages vidéo, à notre main event. Et notre main event, ce n'est autre que le champion du monde en titre, Drew McIntyre, qui va affronter MVP accompagné de Bobby Lashley. Alors là, attention, le main event de l'année 2020, puisque, tenez-vous bien, le match va durer 2 minutes 50. Voilà quoi. Donc McIntyre va totalement démolir le MVP qui est totalement out of shape. Voilà, ça va y aller, voilà, il va lui placer du Glasgow Kiss, il va lui enquiller du Claymore, mais quand il veut y aller avec son Claymore, Lashley va retirer MVP du ring pour un peu lui sauver la mise, mais le bel homme, il se démonte pas, hein, il va monter sur le poteau et il va leur sauter dessus, voilà, McIntyre, il va ramener MVP dans le ring, je vous fais le play-by-play, mais en fait, c'est quasiment à la vitesse où ça a été, quoi.
Oui, tu fais même plus long, je pense.
Ouais, presque. McIntyre, il va ramener MVP dans le ring, pour finalement lui porter son Claymore kick pour la victoire.
Voilà.
Lashley derrière, donc le match est fini. Voilà, bim, bam, boum, 1, 2, 3. Lashley va venir ensuite attaquer McIntyre pour lui porter une full Nelson, mais, on verra jamais véritablement la fin de cette full Nelson, puisque le show va se terminer là-dessus, avec l'incrustation habituelle qu'on a à la fin des Raw. Et on va même pas voir, on n'aura même pas le droit au final du Full Nelson de comment ça se termine. Donc on peut tout imaginer d'ailleurs derrière. Hein. On peut dire, ça se trouve que McIntyre va peut-être, contrer la Full Nelson, ou peut-être pas. Et en fait, on n'en sait rien du tout. Parce
qu'ils sont toujours coincés comme ça.
Peut-être qu'ils sont encore coincés à l'heure où on parle en ce moment avec Papy. Effectivement, ils sont toujours coincés sur le ring. Mais alors voilà un finish d'Euro assez catastrophique. Un peu dégoûté que Drew soit traité de cette manière-là sur un main event final, lui qui tient quand même la corde depuis WrestleMania et qui la tient bien. Donc qu'est-ce que t'as pensé de ce main event complètement phagocyté, quoi?
Bah, et alors, tu vois, c'est marrant parce que justement, je J'attendais que tu me le décris pour voir si c'était ma version qui était coupée trop tôt ou si c'était le show qui était comme ça. Non, non, ils ont coupé à l'instant où Lashley attrape McIntyre.
Ouais, ouais.
Et je pense même qu'il coupe la phrase en plein milieu de ce qui c'est Tom Phillips, un truc comme ça, qui dit « Attention, il fait la foule !» Et on ne saura jamais.
J'ai été checké, hein, avant qu'on en parle, là, tu vois, avant qu'on fasse ça. J'ai été checké pour voir dans les reports américains et français, et tout le monde a bien vu la même fin. Hein. Ça s'est bien terminé de cette manière-là. Hein.
Pour un show, monté.
Pour un show, monté. Non, mais ça, c'est un scandale. Hein. Ça, c'est un truc, depuis le début du Corona Mania, que je ne comprends pas. C'est comment c'est possible que des shows montés, on laisse passer autant de botch, d'approximations, de coupures intempestives. Ça, c'est fou. C'est fou. Je peux pas comprendre ça.
Ouais, ils ont voulu faire un effet foiré en disant bah on coupe en plein nul l'action, comme ça tout le monde se dit qu'est-ce qui se passe. Mais non, enfin, il aurait fallu au moins laisser, je sais pas, ne serait-ce que 15 secondes de plus de voir Drew qui commence petit à petit à perdre conscience, enfin je sais pas, quelque chose quoi. Mais là, non, il l'attrape. Mais peut-être s'il voulait juste lui faire coucou bœuf, je ne sais rien.
Ouais.
Il joue à chat, peut-être, on ne saura jamais. Peut-être.
Et MVP est dans une forme catastrophique. Je comprends pas ce qu'il fait encore sur le ring.
Enfin, bah, il a pour prendre les clémores, en fait. Il les prend plutôt bien. Ouais.
Oui, il les prend bien. Oui, on va dire qu'il scelle bien. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais bon, moi, je comprends pas ce qu'il fout là, quoi. Mais moi, je trouve très bien l'idée de le mettre en manager de Bobby Lashley. Mais quel intérêt de le mettre sur le ring, quoi. Quel intérêt de le mettre sur le ring.
Bah, t'évites de mettre Lashley et Drew McIntyre ensemble, quoi.
Voilà, exactement.
Mais ouais. Effectivement, lui, enfin, c'est...
Ouais. Ouais. Donc voilà. Donc ainsi s'achève ce Raw du 1er juin 2020.
Alors,
oui, de manière très abrupte, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, du coup, nous, on n'en a pas terminé avec notre review parce qu'on va respecter la tradition et on va vous balancer notre top flop note. Et après, on va avoir deux petites affaires à régler avec vous, peuple de catch-up, et on va vous expliquer ça. Mais d'abord, voilà, on a encore du taf. Mais d'abord, on va attaquer avec le top flop note de notre bon papy. À toi, papy.
Alors, ça, je vais commencer par le top parce que c'est le plus facile. Le top, je vais mettre... la semaine dernière, tu avais mis le top à Apollo et cette semaine, c'est moi qui vais le mettre. Parce que je trouve, comme je le disais tout à l'heure, qu'on a eu un bon match, enfin toute la séquence avec Kevin Owens et les Latinos étaient plutôt bien. Je trouve que ça sert en plus son personnage et le titre US d'avoir de la rivalité, de la baston, des mecs qui se défient. Là, on peut, enfin, j'extrapole, on peut très bien se projeter demain vers un Fatal 4-Way pour la ceinture, hein, vu que quelque part Kevin Owens, ça peut, ça change jusqu'au bout pour le titre US. Enfin, je sais pas, il y a plein de possibilités qui s'offrent à cette histoire, et donc je suis bien content du travail. Et puis, oui, franchement, le match en ring était le meilleur, donc ça, il y a pas photo là-dessus. Je suis bravo Apollo, tu as mon top. Le flop. Alors le flop, par contre, c'est plus compliqué parce que j'avais déjà une liste de 3 et en parlant avec toi, j'en ai un 4e du coup. Alors j'hésite entre le segment retraite Mysterio où j'ai pas compris ce qu'il voulait faire, le Edge Orton qui me saoule, la fin coupée à l'arrache ou les segments backstage tout le temps.
Ouais.
Allez. On va le mettre à Edge Orton, voilà, parce que là, ça fait 2 semaines de suite qu'il me sort par les trous de nez. Pour la continuité dans la médiocrité, ça sera pour leur tronche.
Et bam!
Bam! Voilà le meilleur match de wrestling, c'est pas la meilleure construction du tout. Hein.
Ça, c'est vrai.
Fait chier. Et donc, du coup, la note, eh ben, tu vois, c'est pareil. J'étais perturbé, je ne savais pas trop quoi choisir. Je me disais, est-ce que c'est parce que finalement, il y a quand même des trucs sympas. Hein. Il y a quoi, notamment les deux, pour moi, les trois histoires principales, là, elles avancent plutôt bien. Même la rivalité des filles, bah, ça avance dans le bon sens. Donc, les trucs avancent dans le bon sens. Il y a comme beaucoup de trucs qui n'allaient pas quoi, dans ce show. Et notamment, et tu vois, c'est les segments backstage qui vont faire basculer ma note. Tu vois, j'étais autour de 2,5. Je ne sais pas si j'allais mettre 2,25 ou 2,75. Et ben, ça sera 2,25 parce qu'il y avait trop de trucs. On passait notre temps, entre l'entrée des catcheurs et le début du match, il y avait des segments vidéo. Donc, non. Il y en avait trop. Donc, sanction, 2,25. Okay. Et ce sera mon dernier mot.
Bang, bang, bang. Voilà.
Voilà.
Bien.
Tonton flingueur. Enfin, papy flingueur.
Ah ouais, là, ça va être les papys et les tontons flingueurs parce que là, moi aussi, je vais flinguer à tout va. Mon flop, moi je vais le donner aux Street Profits et aux Viking Raiders parce que j'en ai marre. Voilà quoi, je l'ai déjà dit. Un
saturation.
Voilà quoi, je suis à saturation. En plus, ça va rejoindre nos affaires d'après. Donc voilà, donc moi je mets mon flop clairement pas au package vidéo en lui-même, parce que c'était pas dégueulasse, quoi, le truc de bowling, il y avait des moments un peu drôles. Finalement, j'ai bien aimé les deux nanas qui jouaient dans le bowling, quoi, celle qui était au bar et celle qui était en cuisine, qui était plutôt marrante, et voilà, mais bon, même ça me saoule. Moi, je suis la Tag Team Division, je veux voir du catch, quoi. Là, on en est à 4 semaines consécutives avec des vidéos package, avec du golf, du catch, du lancer de hache. Bientôt, comme tu as dit, on va avoir de la tomate. Enfin bref, ouais, marre, quoi. Vraiment, j'en ai marre, moi, de ça. Moi, je veux voir du catch, quoi. Donc,
et puis, les petites équipes, on les voit plus non plus, en fait, maintenant que tu dis
oui,
ça.
Oui.
Ricochet, Cédric Alexander, l'autre équipe de MVP, là, les gars de NXT, enfin, tout a disparu.
Ouais. Et puis, ouais, tous ces mecs-là sont aux abonnés absents, quoi. À partir du moment où ils sont aux abonnés absents, on espère quand même que du coup, on va avoir du catch avec les deux seules équipes qui sont présentes. Voilà. Mais non, on n'en a même pas. Donc voilà, ça fait 4 semaines de suite qu'on nous colle ça. Donc là, maintenant, ça suffit. Donc la WWE, si vous nous écoutez, remettez du catch par équipe. Merci. Donc note cumulée pour ce rôle des papys et tontons flingueurs, ça sera un 4,25 sur 10. Quoi. Et je trouve qu'on est presque gentil là-dessus. Quoi. Donc voilà. Alors maintenant, le catch-up.
Maintenant, juste, je ne sais pas si tout le monde l'a eu, mais ça a coupé en fait. J'ai pas entendu ton top ni ta note.
Ah bon, t'as pas entendu mon top et ma... Ah ben j'ai mon top, j'ai dit comme toi, je l'ai donné à Apollo Crews et Kevin Owens, en particulier pour le 1 contre 1 de départ. Quoi. Et ma note, j'ai dit simplement 2.
2.
Ah ouais, un 2. Ouais. Là, vraiment, j'ai été vraiment très déçu par ce Raw cette semaine. Quoi. Là, voilà. Quoi. Là, vraiment, non. Là, c'est vraiment, vraiment pas passé. Là, j'étais vraiment très déçu ce matin tôt. Voilà, quoi. Au petit déjeuner de l'EHPAD, là, m'infliger ça, là, ça m'a quand même largement déçu. Alors, mes amis, maintenant, on va passer à un point que vous connaissez de mieux en mieux parce qu'on essaye de le répéter le plus souvent. C'est le fameux. Point Gilbert, c'est le point Gilbert, les
questions de
Gilbert, le discordeur fou, qui nous a donc posé quelques questions pour ce Raw. Et donc il a été bien précis puisqu'il nous aura posé 4 questions, mon cher papy. Alors attention.
Allons-y.
Est-ce que on sent revenir le push avorté d'Humberto Carrillo? Il trouve qu'il est de plus en plus utilisé dans sa feud contre la team Rollins. Mais il a l'air de penser qu'en fait, il est utilisé que comme faire-valoir.
Ouais, comme support. Hein.
Comme support. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses d'Humberto Carrillo? Est-ce que tu penses que déjà, il subit un push, mais un push avorté, comme dit le Gilbert?
Ouais, moi, je ne pense même pas qu'il subit de push. Je pense qu'il fait... C'est bien pour lui d'avoir du temps d'antenne, hein, mais de rien, c'est toujours bon pour son expérience et bon pour son personnage. Mais effectivement, je pense là qu'il est là pour faire nombre, en fait. À un moment, il y a quelques mois, on aurait pu penser que comme il faisait un peu l'héritier de Rey Mysterio, ça aurait pu basculer vers ça, mais là, ça semble vraiment plus du tout être une partie de l'histoire qu'ils veulent creuser. Donc non, je pense qu'il est là pour faire nombre. Bon, après, il fait bien dans le ring, hein, il n'y a pas de souci avec ça, mais je crains qu'il n'y ait pas grand-chose pour lui derrière cette rivalité.
Ouais, je te rejoins. Moi aussi, je pense que là, pour l'instant, il est vraiment là juste en support, comme tu l'as dit, et que pour l'instant, il n'y a pas de programme spécifique pour lui. Il était dans l'affaire, il reste dans l'affaire parce qu'ils ont besoin, d'aide en fait avec lui et qu'il ne le sert qu'à ça pour l'instant. Il n'y a pas de, je vois pas d'avenir particulier pour lui, en particulier en individuel, c'est le cas de le dire. Donc voilà, donc je trouve, voilà, je pour l'instant je vois rien, voilà, pour moi je vois même pas de push en fait dans cette histoire, à la différence d'Hilbert. Ouais,
s'il y en a un qui doit bénéficier, ce sera plus Aleister Black en fait, qui du coup a repris le rôle de numéro 2 dans l'équipe de Mysterio.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est complètement ça. Voilà, bon, je sais pas, ouais, Humberto Carrillo, je pense qu'il va falloir voir en fait dans les semaines à venir, mais pour l'instant, effectivement, mon bon Gilbert, je pense, papy et moi, qu'il n'est là que comme support dans cette storyline. Deuxième question, mon bon papy.
Enchaîne.
Ne trouvez-vous pas un peu bizarre que les audiences de Raw chutent par rapport à SmackDown? Alors, pour préciser, il est vrai que Raw est en totale déliquescence. Et que les audiences sont au plus bas et qu'effectivement SmackDown est beaucoup plus haut ces dernières semaines que Raw.
Alors que SmackDown, je crois que ça fait 3 semaines que SmackDown a repris un peu du poil de la bête en termes d'audience. Et j'ai un... pour moi, ça fait aussi 3 semaines que leur, la qualité d'écriture est un peu meilleure, notamment le dernier show là, avec un segment d'ouverture qui sortait de l'ordinaire, hein, qui pour le coup était vraiment original, du moins dans la période actuelle. Donc je pense que
c'est ça plus original que ça, Jeff Hardy qui s'est arrêté par la police.
C'est un non, truc ça habituel, non, mais par contre, le fait qu'il y ait du mystère, enfin, là, ça croisait plein de trucs. T'avais Jeff Hardy, t'avais comment il s'appelait, Elias qui était là. T'as un mystérieux assaillant. Ce que tu dis, c'est peut-être pas Jeff Hardy. En plus, bah, justement, il y a du mystère. On est sur SmackDown. Qui est-ce qui pourra nous aider à checker ça? Est-ce qu'il n'y a pas un mec derrière les vidéos qui pourrait pas nous donner des infos? Bah, c'est l'occasion de le ressortir aussi. Donc, je trouve ça plutôt bien de. Bah, en plus, tu vois, derrière le segment avec tout. Enfin, là, je sors un peu d'Euro, forcément. Mais c'est le moment où ils étaient tous ensemble à débattre ce qu'on refait le match et tout. Enfin, il y a vraiment. Ils avaient vraiment fait une intro travaillée, je trouvais, sur SmackDown. Et donc, du coup, entre guillemets, c'est mérité leur bon score. Par contre, moi, je trouve aussi que ces dernières semaines, alors les deux dernières étaient un peu moins bonnes, mais sinon, ils avaient plutôt travaillé les shows récemment. Et bah, je suis étonné que ça marche pas. Alors, est-ce que c'est la durée? Il y a une heure de plus? Est-ce que c'est la chaîne ou est-ce que c'est le jour? Peut-être que bah, le vendredi soir, c'est peut-être plus sympa de se regarder un show de catch que le lundi soir, j'en sais rien. Je ne saurais pas dire en fait, mais c'est vrai que c'est étonnant qu'il plonge, enfin surtout, ça fait longtemps qu'il plonge, quoi, Raw. C'est pas du jour au lendemain. C'est, ça fait un bout de temps qu'il plonge. Ouais.
Ouais,
je ne peux pas expliquer.
Ouais, moi, j'ai pas forcément d'explication toute faite non plus. Je suis d'accord pour dire que SmackDown remonte un peu, mais moi je trouve que SmackDown est encore très faible. Moi je suis pas voilà, même si je lui ai donné la semaine dernière pour le coup une note meilleure que d'habitude. Effectivement, j'ai trouvé meilleur parce que j'ai bien aimé le main event moi à SmackDown cette semaine, enfin vendredi. Mais je confirme, et oui, effectivement, les audiences de Raw sont en chute libre. À quoi c'est dû? Alors là, est-ce que c'est dû au Corona Mania? Est-ce que effectivement un show Corona Mania de 3 heures, bah en fait c'est beaucoup trop long et que SmackDown bénéficie justement du fait qu'il dure 1h30? Peut-être que ça joue. Peut-être est-ce que c'est dû à l'exposition aussi du bouquet télé sur lequel est SmackDown, parce que la Fox est un bouquet télé énormément suivi aux États-Unis.
Ouais.
Voilà, peut-être que ceci explique cela, mais bon, pour l'instant, on n'a pas de réponse sûre. Je pense que on pourra reparler de ça pour Gilbert d'ici, allez, on va dire d'ici SummerSlam. On aura eu, voilà, on aura eu des vraies indications là, puisque ça fait effectivement que 3 semaines que SmackDown est en tête.
Oui. Donc,
peut-être que d'ici SummerSlam, on aura vraiment là un beau panorama pour vraiment savoir qu'est-ce qui fait que SmackDown est au-dessus à l'heure actuelle. Peut-être que là, c'est peut-être encore un peu tôt pour trouver une explication. Mais peut-être que d'ici SummerSlam, en plus, les shows avec du public auront peut-être repris. Et là, on verra si justement Raw est toujours tout en bas ou si Raw justement remonte avec le retour du public.
Parce qu'en plus, Raw, c'est sur le même network. Enfin, c'est sur USA Network, c'est ça? C'est comme, ouais, NXT. C'est ça,
comme NXT.
NXT aussi, il a du mal. Hein,
NXT est battu toutes les semaines en ce moment par la AEW.
Voilà,
hein, il n'y a pas photo. Hein.
Ils sont loin des audiences du début, quoi. Enfin,
ouais, ouais.
Donc, c'est peut-être juste le channel qui a du mal, tandis qu'il faut que ça a peut-être d'autres programmes attractifs autour, peut-être.
Peut-être, ouais. Ouais, parce que du coup, c'est vrai qu'on connaît pas forcément ce qui se passe avant SmackDown et après SmackDown aussi.
Oui.
Et pareil pour Raw. Donc, effectivement, peut-être que ça draine un public qu'on soupçonne pas en réalité, quoi. Ok, troisième question. Ah ouais, parce qu'il rigole pas avec les questions, l'ami.
Il nous fait travailler, hein.
Alors, ouais, il nous fait bosser, grave. Alors. Déjà, il nous rejoint puisqu'il nous dit que ça commence à le gonfler la feud avec les Viking Raiders et les Street Profits. Oui. Et donc, du coup, il nous demande, verra-t-on un changement pour les titres par équipe prochainement, à votre avis?
Un changement de champion?
Changement de champion, je pense que c'est ça qu'il veut dire. Verra-t-on un changement pour les titres par équipe prochainement?
En fait, effectivement, tu vois, maintenant qu'en en reparlant, ça nous fait sortir un peu, finalement, cette rivalité. Ça nous fait sortir de la rivalité... in-ring des deux, où finalement on était quand même une situation, on l'oublie, mais peut-être, mais où les Street Profits étaient incapables de battre dans le ring les Viking Raiders. C'était ça le point initial de la rivalité.
C'est vrai, ça a commencé comme ça.
Et donc, si jamais ils doivent s'apporter dans le ring, effectivement, on se dit, ça sera le moment de dire, bah voilà, on nous avait jamais battu dans le ring. Est-ce que c'est le moment de reprendre les ceintures pour les Viking Raiders? Peut-être, mais c'est vrai que du coup, avec la rivalité. En mode de fête du village, et ben on est un peu sorti de ce statut où les Viking Raiders semblent être invincibles. Donc, sincèrement, j'ai envie de dire Joker, je ne sais pas. J'arrive même pas à décider.
Alors, moi, je vais juste détourner la question. En fait, c'est je vais dire pourquoi pas un changement pour les titres par équipe. Mais comme on l'a dit plus tôt avec Papy, mon bon Gilbert, moi, ce que j'espère surtout, c'est tout simplement un retour de la Tag Team Division Arrow. Avec du catch, avec des mecs entre les cordes qui se mettent des clotheslines, qui se mettent des power moves et qui se battent, quoi. Voilà, on veut de la bagarre et on veut plus du bowling et du basket, alors que ce soit les Viking Raiders, des Street Profits ou Papy et Tonton Chris sur le ring. Moi, tout ce que je veux, c'est de la bagarre. Voilà, quoi. Là, il y en a marre et je comprends tout à fait ta réflexion sur le fait que cette feud commence à te gonfler, puisque je pense que tes deux chroniqueurs du soir sont exactement dans le même état d'esprit. Voilà, ouais, allez.
Ils nous sortent carrément de la rivalité finalement.
Voilà.
Pire que mieux.
Ouais. Ouais. Voilà. Dernière question du point Gilbert. Avec le retour de Raw Talk, alors donc il parle du show qui suit en fait, qui suit Raw. Est-ce qu'on peut espérer un retour des General Managers?
Alors moi je l'ai pas regardé Raw Talk.
Moi non.
Voilà. Donc du coup ça va limiter un peu ma réponse. Est-ce que ça Je ne pense pas que ce soit lié. Ça sera peut-être un. Moi, je vois plus que si c'est. Est-ce que c'est un peu comme le truc qu'ils avaient sur SmackDown, là, où en gros, ils font des interviews après le show, c'est ça? Au talk, j'imagine?
Ouais, c'est ça.
Donc, ce sera peut-être juste des moyens de faire des promos un peu en dehors du cadre du show. Alors, ce sera peut-être l'occasion aussi de sortir des promos de Raw et de les foutre dans ce show-là. Ça serait peut-être bien, ça, de faire ça. Plutôt que de nous garder une heure et demie de promo backstage. Hein. Mais sinon, non, le GM, je vois pas ce que ça pourrait changer à ce niveau-là.
Ouais. Écoute, moi, en fait, sur sa question du fait que est-ce qu'on peut espérer un retour des general managers, j'ai envie de répondre non. J'ai pas l'impression que ça augure d'un retour des general managers sur les shows. Mais moi, je fais partie de ceux à qui ça manque. Parce que j'aime pas trop quand les catcheurs se bookent eux-mêmes leurs matchs ou des choses comme ça. Et, ouais. Et finalement, la présence d'un general manager, moi j'aimais bien quand Kurt Angle était là par exemple. Sur les derniers general managers qu'on a eu dans le show rouge. J'avais bien aimé aussi la période Page par exemple à SmackDown. Et du coup, moi je reconnais que c'est un personnage qui me manque parce que c'est assez sympa, ça permet des interactions un peu originales en coulisses. Là, du coup, c'est vrai que ça manque peut-être un peu de piquant, quoi, un peu de sel et poivre dans cette affaire. Et mais du coup, comme on n'a pas vu Raw Talk, ce que je te propose, Gilbert, la prochaine fois, c'est de un peu nous raconter justement, puisqu'apparemment toi tu le suis, donc un peu nous raconter ce qui s'y passe, et puis comme ça, on fera un briefing du Raw Talk qui se passe après le show rouge, quoi. Voilà, c'était le point Gilbert. Il est massif, hein, le point Gilbert, papy. Hein.
Gilbert est demandeur d'infos, il a raison.
Ouais, oui. Mais Gilbert, il déconne pas. Hein. Et puis en plus, hein, quand on envoie les heures d'enregistrement, on peut être quasiment sûr que derrière, hop, dans le Discord, le Gilbert, il est présent et il va nous envoyer toutes les questions qu'il faut, quoi. Donc merci à toi, mon bon Gilbert. Allez, on part sur la dernière petite affaire du jour.
Oui.
Alors j'avoue que je sais même pas comment on parlait tellement cette histoire est glauque. Mais du coup, le catch rejoint l'actualité parfois. Et il s'avère que vous êtes certainement tous au courant de ce qui s'est passé aux États-Unis suite à la mort d'un noir américain dans le Minnesota qui s'est fait honteusement, scandaleusement, enfin, j'ai même pas de mots pour le décrire, tué par la police. Voilà, il n'y a pas d'autres mots que dire que c'est un meurtre.
C'est factuellement le cas.
Il y a eu un meurtre qui s'est passé aux États-Unis, ce qui a provoqué bien évidemment une onde de choc terrible à travers le pays, des émeutes, des manifestations, un Donald Trump évidemment comme à son habitude complètement dingo. Mais c'est surtout que ce qui nous concerne directement en tant que suiveur de catch, c'est qu'il y a un certain dénommé Jackson Ryker, membre des Forgotten Sons, membre également du roster du show rouge, qui a envoyé
Bleu.
Ah oui, bleu, t'as raison, oui, ils sont à SmackDown, excusez-moi, ils sont à SmackDown, pas à Raw. Et qui a donc eu le malheur de tweeter et qui a, en bon supporter de de Donald Trump, quoi, et qui a encensé finalement le président of the United States, le POTUS. Et derrière, il a pris, heureusement, il a pris la marée par ses propres collègues et aussi par quelques catcheurs de la AEW. Et alors, je suis tellement atterré par cette histoire que je vais te demander tout de suite ton avis, papy, là-dessus.
C'est un sujet sensible de toute façon. Ce truc-là, c'est certain. Bon, comment dire. Après que ce mec-là, il pense ce qu'il veut finalement. Ça, je.
C'est pas là pour. Ah, il a sa liberté de penser. Ça.
Voilà. Après, bah voilà, quand tu t'exprimes sur un réseau public, bah c'est prendre le risque de te prendre la marée. Alors surtout ce sujet aussi sensible, notamment aux États-Unis, la partie la relation avec les Noirs américains, tout ce qui est racisme. Ça, on sait que c'est des sujets ultra sensibles où ça met facilement le feu au propre comme au figuré. Et puis bah genre, il y a des collègues en plus ce garçon dans enfin, je sais pas, je sais pas ce qui lui passait par la tête, mais alors, on en discutait un peu hors antenne. Il a du bol de pas avoir le montré le bout de son nez avec un petit segment dans ce rôle. Sinon, moi, je l'aurais mis directement le flop de la semaine, mais il échappe que grâce à ça.
Mais... On peut signaler aussi le petit détail quand même affligeant aussi, c'est qu'il a utilisé dans le tweet. Alors déjà, il faut bien.
Oui, c'est ça le pire.
Il a utilisé le Twitter de son personnage, premièrement. Mmh. Et que deuxièmement, il a utilisé sa catchphrase.
Forgotten No More.
Ouais. Je veux dire, voilà quoi, pour encenser Donald Trump. Et il a utilisé sa catchphrase. Et derrière, Kevin Owens, il lui a mis une avalanche hein, derrière. Je sais pas si.
J'ai fait Ricochet aussi de mémoire.
Ricochet aussi,
ouais. Oui, ils sont beaucoup allés tomber dessus. Et...
Mustapha.
Samizane est très sensible à ces causes-là en plus. Hein. J'ai déjà vu plusieurs fois réagir. Notamment à des discours de Trump, je sais qu'il est ultra sensible à ces sujets-là, donc ça ne m'étonne pas qu'il ait tout de suite réagi. Ouais, enfin voilà, tu dis les noms, hein, Sami Zayn, Mustafa Ali, Ricochet, bah, c'est des gens qui effectivement ont peut-être souffert aussi de harcèlement par le passé, pour leurs origines, pour ça, même encore, tu vois, Zayn qui n'est même pas encore accepté dans un certain pays où on fait des super, super shows, là, qui sont
ouais,
chaque
ouais,
fois sont plus passionnés que les autres. Ben c'est des sujets où et alors, je sais même pas ce qui serait pire, c'est s'il l'a fait exprès pour capitaliser sur ce personnage de méchant ou si c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il pense vraiment un truc et du coup il sert de sa gimmick pour renforcer sa véritable pensée. Je sais pas ce qui est le pire en fait entre la bêtise et puis la méga bêtise. Voilà. C'est un avis personnel, hein. Attention, hein, je.
Ah non, mais là, de toute façon, oui, c'est notre avis à nous. Évidemment, peut-être que des gens ne seront pas d'accord avec ce qu'on est en train de dire.
Ça, voilà.
Mais bon, voilà. On est en libre antenne à catch-up, quoi. Et nous, on vous partage notre sentiment du jour par rapport à ça. Et moi, je vous le dis clairement, j'ai trouvé ça totalement pathétique. C'est scandaleux. Et que je pense que si j'étais le boss, je pense que ça chierait des bulles pour Jackson Ryker dans le bureau. Et je pense même pas que moi, je l'autoriserais à remettre les pieds sur un ring. Il a sa liberté de penser, il a le droit d'avoir ses avis politiques, son
camp, j'ai
même envie de dire, mais qu'il l'exprime de manière publique avec son Twitter de personnage de catch et qu'il utilise en plus sa catch.
C'est à ce moment-là en fait. C'est vraiment.
Et oui, c'est juste atterrant quoi. C'est comment quand... Alors il a pris la marée, on peut dire, il y a Adam Page aussi de la All Elite Wrestling. Qui lui a mis. Et alors, celui que j'ai beaucoup aimé, le Twitter que j'ai beaucoup aimé, c'est Dave Bautista.
Ce sujet-là, il est sensible.
Oh oui, alors là, l'animal, lui, il s'est pas embarrassé, puisqu'il a tout simplement dit à Jackson Ryker que, bah écoute, qu'il est. Écoute, mec, je suis facile à trouver. Donc, si tu as envie de parler de ça en face à face, je suis disponible.
Voilà.
Je prends quand tu veux, quoi. Et je pense que Jackson Ryker, il vaudrait peut-être mieux pas qu'il croise Batista dans les prochains jours ou prochaines semaines, tu vois.
Mais c'est dur pour lui dans les vestiaires, enfin ce truc-là, enfin, genre c'est ses collègues.
Alors,
c'est compliqué, mais c'est mis dans une situation très compliquée, hein, ce monsieur.
Et en plus, on peut citer, alors là, le dernier point de détail de cette affaire, c'est que, eh ben, tout simplement, les Steve Cutler et Wesley Blake, qui sont ces deux acolytes chez les Forgotten Sons, et ouais. Bien se désolidariser de lui.
Voilà.
Voilà, ils ont tous les deux, eux aussi, tweeté, eux aussi, sous leur Twitter de personnage de la WWE. Mais, voilà, quoi, ils se sont mis à l'écart des propos de Jackson Ryker et se sont totalement désolidarisés du bonhomme. Donc, tu crois pas que ça sent le sapin, là, du coup, pour
bah,
le
Ryker ça, bah, déjà, leur personnage un peu... vu l'Amérique est en train de prendre feu, là, je pense que c'est devenu touchy. Mais alors là, en plus, avec ce qui pour moi un dérapage, effectivement, là, ça sent le sapin. Et peut-être que les deux vont continuer en solo avec peut-être un rôle à poil plus changé, j'en sais rien. Ou alors peut-être qu'il va rien se passer. Hein, je serais étonné quand même parce que on en a parlé tout à l'heure ensemble. C'est de famille quand même le catch. Et si tu fais en sorte de t'aliéner tous tes membres de ta famille, ça va être dur d'être accepté ensuite. Qu'ils aient opinions politiques. Différentes dans la compagnie. Là, tu vois, il y a des démocrates, des républicains.
Oui,
je crois,
oui.
Que Kane, il est libertarien, un truc comme ça, donc c'est encore autre chose. Donc ils ont tous des sensibilités. Là, c'est mettre de l'huile sur le feu, en fait. Et c'est un feu qui est douloureux, surtout vu l'histoire de l'Amérique, en fait. Il y a des sujets où, pour le coup, en France, c'est pas exactement la même chose pour nous, même si on peut trouver des similitudes parfois. Mais chez eux, c'est très très douloureux ce sujet-là. Et là, c'est le genre de truc où il aurait mieux fait de s'en passer, je pense.
Ouais, je pense aussi. Donc bon, écoute, affaire à suivre. J'imagine qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans les reviews catch-up de toute manière.
Donc, espérons que ce soit une affaire close.
Espérons qu'on n'en ait pas à parler pendant plusieurs semaines. Ouais, voilà, ouais. Espérons que cette affaire se termine dans les délais les plus rapides possibles. Voilà.
Tout à fait.
Bon, bah voilà. Bon, en tout cas, nous concernant, vous inquiétez pas, on va pas envoyer de tweet. par contre,
je n'aime pas Twitter.
Voilà. On va vous envoyer. Ah, catch-up, on en a un du Twitter. Et ça tombe bien, puisqu'on va vous parler de notre fameuse et non moins célèbre auto-promo. Puisque voilà, comme vous le savez, catch-up, nous sommes partout. Nous sommes omniscients, nous sommes omniprésents dans le monde du catch. Vous nous retrouvez sur Facebook, vous nous retrouvez sur Twitter, donc bien évidemment, vous nous retrouvez sur Instagram, vous nous retrouvez sur le site officiel de Catch Up, catchup.lepodcast.fr. Vous nous retrouvez sur YouTube, n'oubliez pas d'aller de faire sonner la cloche pour recevoir tout en temps et en heure.
Mettez
des pouces vers le haut, vers le bas, comme vous voulez. Voilà quoi, c'est toute la beauté du catch, ça on n'aime pas, mais il faut le dire. Voilà, soyez des heels, soyez des fakes, mais dites-le nous. N'hésitez pas à déposer des commentaires, bien évidemment, on fera tout notre possible pour vous répondre. On est bien évidemment présent sur toutes les bonnes plateformes de podcast, en l'occurrence Apple Podcast, Podcloud, Spotify, Deezer et Google Podcast. Dernière chose, bien évidemment, nous avons notre Discord dévolu à l'ignoble sport, le catch-up sur Discord. Voilà, et d'où d'ailleurs le fameux point Gilbert a été créé, hein, puisque c'est là que Gilbert vient nous déposer ses questions. Donc si vous avez envie, comme Gilbert, de devenir une superstar internationale chaque semaine en passant à catch-up, eh bien n'hésitez pas, venez déposer vos questions dans le topic podcast de catch-up, et nous n'hésiterons pas à vous citer à l'antenne, ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours là. Et voilà, écoute, on est arrivé au bout, mon papy.
Et oui,
cette longue review de ce Raw, il y avait beaucoup de choses à dire. Le point Gilbert, en plus, était dense. L'affaire Jackson Ryker était dense, à la différence du main event.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, bah, écoute, mon papy, c'était un plaisir de te rejoindre à l'EPAL pour faire cette review.
Mais le plaisir était partagé. J'espère que bientôt, on pourra ajouter dans notre liste de support le 3615 catch-up, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne dès mars. Mais on va tenter un jour. Hein.
On tentera l'affaire, ouais. Nous, on a
les gens comme moi, parce que moi, j'ai rien, quoi. J'ai pas Internet. J'ai juste du morse et le Minitel, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut.
Eh ben voilà, on est à la fin. C'était la fin de la review du 1er juin 2020. Mon bon papy, je te fais des bisous.
Bisous, bisous à tous.
Peuple de catch-up, on vous fait plein de bisous. On vous fait plein de cordes à linge dans la face. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Salut, papy.
Salut.
Et salut, peuple de catch-up. Bon, papy, on galère avec le Minitel quand même. Hein. Ton histoire de cintre, là, ça va pas, quoi. Il va vraiment que t'ailles à Castorama chercher une antenne, non ?
Non, ou j'ai une idée, je vais mettre une fourchette plutôt. On va tenter.
Ah ouais, ça marchait bien. Dans les années 70, je me rappelle, on faisait ça.
Bon vieux temps.